Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama. Okapi.
Bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. Quel est le rôle de la diaspora congolaise dans le développement du pays? Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Alain Moulaba Chilumba, expert en gestion des projets, entrepreneur et coordonnateur du PADEC, la passerelle des Congolais. M. Moulaba, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, les standards déjà ouverts. Composez le 086-341-2871 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Salubrité publique, quelle est la place de l'éducation environnementale? On en parle dans la deuxième partie de votre magazine avec M. Isaac Mukendi, bourgmestre adjoint de la commune de Limété. Bienvenue à tous et toute l'équipe est mobilisée pour vous servir. David Moussangou, Esther Mamboté, John Tiboabois, Paul Badianyama, au micro, Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, de nombreux Congolais ont quitté le pays pour aller vivre sous d'autres cieux. Selon les experts, la tendance à l'émigration s'est amplifiée vers les années 80 pour diverses raisons. Asile politique, études, pauvreté, conflits armés, etc. La diaspora congolaise est parmi les plus importantes avec environ 16 millions de personnes. Ces Congolais de l'étranger envoient régulièrement des fonds au pays pour la scolarité, le mariage, loyer, décès, soins médicaux et autres besoins des familles restées au pays, sans oublier les vêtements, véhicules d'occasion, appareils électroménagers qu'on appelle communément bilocos. Selon un rapport de la Banque mondiale, les transferts d'argent de la diaspora congolaise vers le pays ont atteint environ 1,7 milliard de dollars entre 2022 et 2023. Par ailleurs, de nombreux Congolais de l'étranger se sont formés dans des domaines divers comme l'ingénierie et la technologie, la médecine, l'éducation et dans d'autres domaines. Alors comment impliquer davantage les Congolais de l'étranger qui sont éparpillés à travers le monde dans le développement du pays, dans divers secteurs? Bien, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir l'un d'entre eux. Il s'agit de Monsieur Alain Moulaba Chilumba. Il est expert en gestion des projets. Il est entrepreneur et coordonnateur de PADEC, la passerelle de Congolais. Monsieur Alain Moulaba, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Nous parlons du rôle de la diaspora congolaise dans le développement des pays. Quel peut être l'apport des Congolais qui sont dans la diaspora, dans le développement du pays?
L'apport est d'une grande importance. Cela a commencé depuis plusieurs années.
Oui.
Juste, c'est un problème de canal officiel et d'officialisation des dispositifs qui permettent de donner de la visibilité à ces actions. Nous connaissons, nous tous, les familles de la diaspora qui prennent en charge les loyers, les soins médicaux, les études, la mobilité de leurs familles et amis restés au pays.
Et c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent.
Lorsqu'on nous parle d'un milliard et quelques pour une année, il faut aussi souligner que c'est supérieur à l'aide publique au développement. Donc la démarche qu'on fait pour courtiser la France ou la Belgique afin de recevoir une aide, elle est inférieure à ce que les Congolais ont mobilisé en termes de transfert de fonds. Maintenant, il y a une démarche qui est plus global parce que nous parlons de développement. Donc c'est à ce niveau-là que nous, au niveau de la France, nous avons intégré des réseaux, le forum des organisations de solidarité internationale.
Vous vivez en France depuis combien d'années?
Depuis 2001.
Ok, depuis 2001.
Oui, et depuis 2003, j'ai créé une association, Action pour la promotion agro-pastorale du Kassai. En 2010, j'ai intégré le réseau Forim.
C'est quoi le réseau Forim?
Le réseau Forim, c'est un réseau qui a été créé en 2003 par le ministère des Affaires étrangères français pour fédérer toutes les diasporas. Vous savez, dans le raisonnement occidental, il y a beaucoup cette affaire de mutualisation ou d'association. Donc il y a eu des demandes individuelles de plusieurs pays vis-à-vis des institutions françaises pour de l'aide au développement. Et la France a réfléchi à dire, et si vous vous mettez ensemble pour mettre en place un dispositif qui pourrait canaliser toutes nos actions, et vous vous répartagez entre vous par rapport aux communautés et aux diasporas. Ainsi, nous, on n'aura pas à recevoir 150 personnes par an, mais à recevoir un groupe.
C'est ça, parce que c'est fatigant s'il faut recevoir... les gens individuellement.
Et ce qui a été bien, la France a aussi financé la structuration. C'est là qu'il y a eu les Cambodgiens de France, les Congolais de France, les Béninois de France, les Guinéens de France, afin que ces structures puissent créer le forum. Et avec ça, vu qu'il y avait des projets, on a...
Le forum, qui veut dire ?
Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations.
D'accord.
Donc, dans notre jargon, migrant, c'est celui qui a quitté son pays d'origine pour s'installer dans un autre pour une durée supérieure à 3 ans. Donc, après 3 ans, on est migrant. Et après, on a une question de citoyenneté pour ceux qui sont naturalisés. Pour les enfants qui sont nés là-bas, c'est des enfants issus des migrations, on appelle ça, à partir de la France.
Oui.
Et maintenant, cela a permis de mutualiser les compétences et d'échanger sur plusieurs façons de faire. Le modèle retenu par le forum qui est utilisé par nous tous, c'est ce dont vous avez parlé au début. Il y a le peuple soniké au Mali. C'est un peuple, quand vous recevez un, vous recevez tout le monde. Ça veut dire, il va chercher à pistonner ses frères, il va chercher à renvoyer de l'argent pour une école maternelle, pour un puits, pour ceci, pour cela.
Au village.
Et ça a été officialisé. Et c'est ce modèle-là qui nous a permis de créer le programme d'appui aux organisations de solidarité internationale issues des migrations. Le PRAOSIM, avec le forum, qui a été créé dans les années 2004, si je ne me trompe pas. Et ça finance des projets de développement dans les pays d'origine des migrants. Donc, notre devise... Le forum s'est subdivisé en COSIM dans les régions et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc à Lyon, j'ai été président pendant 5 ans et membre fondateur et je suis administrateur jusqu'à aujourd'hui. J'ai été succédé par Monsieur Noël Juvenal, le président. Donc qu'est-ce que nous avons comme slogan? On dit faire des migrants des acteurs de développement dans leur pays d'origine. Donc vous tous... envoyer de l'argent. Et si on compte, vu qu'on parle du milliard en global, on peut aussi parler de 10 000, 5 000, 15 000 par individu.
Maintenant, mais parce que l'argent que vous envoyez souvent, c'est pour les familles, pour aider le besoin familial, mais c'est pas pour le développement.
Voilà. C'est pour ça qu'avec le COSIM, nous avons structuré ces personnes en montant des projets de développement, forage d'un puits, centre médical de premiers soins, centre de formation de ceci, renforcement des capacités, microcrédit pour les femmes, création des coopératives, des pêcheurs, de ceci, de cela. Donc ça, c'est des actions que nous menons, que nous impulsons.
Ça, vous l'avez fait particulièrement au Kassai?
Moi, personnellement, j'ai fait au Kassai, j'ai fait en Gandajika un forage qui pouvait bénéficier à 300 personnes. Il y a un autre forage à Bakwaboa pour 7000 personnes avec un château d'eau de 30 000 litres, un forage et puis un réseau de distribution de 4 km à Bakwaboa, 25 minutes du pont Loubilangi de Mbujimaï. J'ai eu à faire aussi des projets de panneaux solaires où on emmène une unité solaire et on distribue de l'énergie à 3 commerces qui, au lieu d'avoir un groupe électrogène et de payer du carburant pendant des années, utilisent et payent une partie qui fera un fonds revolving qui pourra financer encore 4 structures.
Oui.
Et on a développé comme cela au Kassai. On a eu des projets médicaux où j'ai eu des accès à des banques de dons de matériel alimentaire et matériel médical UMATEM en France, et on a collaboré avec l'hôpital Bomberger du Kassai, où on a ramené des conteneurs de matériel, d'équipements et de consommables médicaux pour essayer d'élever le niveau de soins à notre niveau. On a eu un programme pour la promotion de la femme kassaïenne avec le ministère provincial du genre au Kassai et le ministère des Affaires étrangères français.
Pour financer des mamans pour entreprendre des activités génératrices des revenus.
Voilà, c'était plutôt une campagne. Parce que si on finançait, elle n'aurait pas su que faire de cet argent.
Oui.
C'était une sensibilisation générale sur le droit, l'économie, sur la santé, sur la culture. Et avec ça, on a fait des tournées, des caravanes, ainsi de suite. Et puis ça a permis à ce que, avec le ministère du genre, le ministère provincial du genre, que des projets maintenant de développement puissent continuer. C'était l'étape, un projet pilote de sensibilisation.
Oui.
Donc avec tout ça, moi, j'encourage les...
Donc, ça veut dire que la diaspora peut contribuer de manière significative au développement du pays.
Oui, et c'est une question de structuration et d'orientation.
Mmh.
Donc, l'expérience de la France avec le Forum au niveau national et l'ECOSIM au niveau des provinces nous prouve que ça a été une réussite. Et j'ai même assisté à Turin, à une conférence où la diaspora n'était pas très structurée pour faire des projets comme on le faisait en France. Et je suis allé témoigner pour donner le modèle français à la diaspora africaine de l'Italie, à Turin. C'était un 25 mai, qui est la journée de l'OUA, donc par rapport à l'Afrique, tout ça.
Mm-hmm.
Journée de l'Afrique.
C'est l'Afrique. Hein.
Voilà, je suis allé à cette journée-là. En plus, c'était une ancienne prison qui a été changée en musée. Et puis, dans chaque cellule, il y avait des exposants, des associations. C'était agréable. On a partagé sur ce modèle-là. Il y a des rapprochements avec la Suisse et avec beaucoup d'autres pays. Le modèle français, il est assez efficace par rapport à la solidarité internationale, parce que nous avons aussi eu à fêter les cinquantenaires des indépendances des pays africains, où la France a des 17 pays qui ont fêté l'indépendance la même année. Tout ça, nous avons fédéré.
Mm-hmm.
Nous avons fait des activités ensemble et des projets de développement pour les pays d'origine. C'est surtout sur ce point-là où nous avons l'insertion. Nous avons une double action en France. L'insertion sociale et professionnelle, l'intégration à l'époque, c'était un terme politique. On parle du vivre ensemble aujourd'hui et de la diversité. Donc ça, c'est au niveau de la France. On accueille la diaspora, on essaie de partager les codes, comment vivre dans la société française, rechercher des stages pour nos étudiants d'origine africaine, ainsi de suite. Et puis, quand on finit, on parle de ceux qui ont vécu et qui veulent investir dans leur pays d'origine. Formation, renforcement de capacités, veille sur les financements, information, accompagnement au montage de projets et puis accompagnement pour la réussite de toucher les financements et aussi à la réalisation. Donc nous avons ces deux volets. Et moi aujourd'hui je partage, parce que je suis à Kinshasa en République démocratique du Congo, sur le fait de se structurer en association, en entreprise, pour monter un projet viable,
oui,
avec des études de préfaisabilité et de faisabilité bien réalisées à Kinshasa. Donc pour cela, il faut avoir un partenaire local. Donc vous êtes en Europe, vous devez avoir un partenaire local.
Un partenaire local avec lequel vous collaborez.
Qui vous donne toutes les informations et les autorisations nécessaires. Lorsque vous réalisez cela, vous devez aussi vous rapprocher de l'État pour être dans les normes avec la politique sectorielle locale et aussi avec les autorités locales. Donc avec tout ça, on peut monter un projet viable et qui tourne. Lorsque vous emmenez votre projet de l'Occident vers Kinshasa, sachez que ce projet, la population locale doit se l'approprier. Si la population locale ne se l'approprie pas, vous allez inaugurer avec une fête, et juste derrière, le projet va mourir.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons du rôle de la diaspora congolaise dans le développement du pays. 086-341-2871. Appelez-nous à ces numéros pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Joseph Kayembe Wamwambui, vous nous appelez depuis Kananga. Bonjour. Bien. Voilà, Joseph n'est plus là, il va certainement nous rappeler. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui l'ANAPI qui travaille pour, qui est là pour les investissements. Il y a également, je pense, au ministère des Affaires étrangères, un département qui s'occupe des Congolais de l'étranger. Comment vous arrivez à collaborer avec toutes ces structures de l'État?
Nous avons des dimensions. Vous savez, nous avons la coopération bilatérale entre les pays, avec le ministère des Affaires étrangères. Nous avons la coopération décentralisée entre collectivités locales, et puis nous avons des coopérations sectorielles, coopérations universitaires, ceci, cela. Nous, à notre niveau, moi j'ai eu à créer une coopération décentralisée entre la ville de Fontaine-sur-Saône en France, où j'ai été conseiller municipal pour un mandat 2020-2026. Mon mandat est fini en mars. J'ai créé une coopération décentralisée entre Fontaine-sur-Saône et le secteur de Nsangu, à Bakwaboa où nous avons fait le forage. Le financement a été reçu grâce à la commune de Fontaine-sur-Saône. Donc ce sont des... Nous avons beaucoup...
Des jumelages,
actions qui nous permettent de mobiliser des fonds à l'agence de l'eau. Lorsque vous êtes porté par une commune française, vous avez la facilité d'avoir accès au financement important parce que la ville se porte garant. Pour convaincre une ville, il faut... aller vendre le pays comme on le dit techniquement, expliquer les choses, donner l'intérêt aussi de la ville à s'intéresser à votre pays d'origine et à votre territoire. Ça, ça a été fait et il y a eu des coopérations universitaires où j'ai ramené le campus de l'Inde de Rennes pour collaborer ici avec le programme Excellencia de la Première Dame dans le cadre de créer renforcement de capacité des jeunes, donc dans ce sens-là.
Thomas Ougeni nous appelle depuis la ville de Kisangani. Bonjour Monsieur Thomas.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. Merci beaucoup, monsieur Jody, de la parole nous accorder. Je pense au-delà de ce que l'invité venait à peine de dire, il y a aussi, monsieur Jody, l'obstacle qui pourra également entrer en ligne de compte parce que, avec la corruption actuelle, mais également des tracasseries administratives surtout, ça peut également décourager les investisseurs de la diaspora, pardon, de venir ici au pays. Hein? On doit marteler sur ça. Lorsqu'il y a la corruption, lorsqu'il y a des tracasseries par-ci par-là, ça quelque part là, ça décourage également des investisseurs, surtout qui sont à l'étranger, là, de venir investir également chez nous. Un autre obstacle aussi, c'est le manque, en tout cas, de confiance envers les institutions qui sont là, qui font, en tout cas, l'investissement au niveau de la diaspora. C'est pour moi, les obstacles sont là, on doit d'abord combattre ces obstacles-là, afin pour faciliter, en tout cas, l'accès à ces investisseurs-là de venir au pays. Mais dès ils ont cette volonté-là de venir investir ici, lorsqu'il y a des tracasseries, lorsqu'il y a la corruption, tout ça, quelqu'un est découragé. Alors que ces arrêts, lorsqu'ils viennent, c'est pour donner quelque chose au pays, mais dès qu'il y a ces problèmes, ils se retrouvent face à des obstacles-là, ça les décourage également de venir, en tout cas, investir au pays. Qu'à cela ne tienne, monsieur Jody, je m'en vais directement aux préoccupations que j'aimerais poser à l'invité. La première question, comment l'État peut-il impliquer davantage la diaspora dans les projets de développement? Qu'est-ce que l'invité pourra nous donner? Qu'est-ce qu'en tout cas l'État peut impliquer la diaspora dans les projets de développement? La deuxième question que j'aimerais poser à l'invité, comment établir en tout cas des partenariats efficaces avec la diaspora, ainsi que même avec les gouvernements ou les entreprises privées pour essayer de résoudre ces problèmes. Comment établir des partenariats efficaces entre la diaspora, les gouvernements et les entreprises privées? Et je vais citer par ceci, monsieur Jody, comment encourager en tout cas davantage les retours temporaires ou permanents des professionnels congolais au niveau de la diaspora, mais quelques préoccupations que j'aimerais poser à l'invité. Et comment est-ce qu'on pourra lutter contre ce que je disais auparavant, là, des tracasseries, mais également des difficultés que les investisseurs, surtout qui se trouvent au niveau des diasporas, font face ici, au niveau des pays.
Merci Thomas Ougeni depuis Kisangani. Maître Néhémie Trésor depuis Kamina, dans la province du Haut-Lomami, nous a écrit, il dit ceci: la diaspora congolaise constitue un levier stratégique de développement encore largement sous-exploité, dont la contribution ne devrait plus être limitée au seul transfert des fonds destinés à la consommation des ménages, mais intégrée dans une véritable politique nationale de développement fondée sur la mobilisation du capital financier, humain, technologique et relationnel. Si les transferts estimés à environ 1,7 milliard de dollars entre 2022 et 2023 représentent une source importante des devises, leur impact macroéconomique demeure relativement faible lorsqu'ils sont principalement orientés vers les dépenses courantes plutôt que vers des investissements productifs. L'État congolais gagnerait ainsi à mettre en place un cadre institutionnel et juridique attractif favorisant l'investissement de la diaspora à travers des mécanismes tels que les obligations de la diaspora, diaspora bonds, des fonds d'investissement dédiés, des incitations fiscales ciblées, des guichets uniques facilitant les procédures administratives ainsi que des garanties de sécurité juridique des investissements. Voilà, Monsieur Alain Moulaba, quelle est votre réaction par rapport à tout ce que les internautes et les
gens disent? Je soutiens le message écrit. Donc la diaspora ne s'arrêtera pas à des transferts des fonds pour la famille, mais à des actions de développement. C'est ce que nous faisons, le COSIM, le FORIM, mais mon association APAPCA. Et je rebondis maintenant sur les questions. Je commence par la dernière question. Comment se créer
comment établir des partenariats?
Voilà. Pour avoir des partenariats, il faut avoir les relais. Nous, on a beaucoup appelé ça dans notre jargon le double espace. Le double espace et la double culture. Ça veut dire ici et là-bas. Lorsque nous étions en France, ici c'était en France. Donc nous travaillons ici en France et puis là-bas chez nous. Donc le double espace. On est originaire de nos pays et on vit en France. On connaît les deux territoires et les deux cultures. On sait comment travailler. Il y en a qui vivent entre les deux territoires, mais qui sont plus focalisés sur une culture. Et il y en a qui ont la double. Moi, celle-là, je l'ai. J'ai cette double culture. Je suis 100% congolais RDC. Vivant ici avec les codes, 100% français vivant en France avec les codes. Donc c'est pour ça que je me suis permis déjà de m'engager dans ce chemin depuis 2003, dans la solidarité internationale. Et puis depuis 5 ans, j'ai créé la jeune chambre du commerce Congo Diaspora. Donc c'était pour ramener des partenariats. C'est avec cette structure-là que j'ai ramené l'université, le campus Zeeland, ici pour créer des classes dans le cadre de la bourse Excellentia. Et puis j'ai maintenant créé la plateforme digitale passerelle du Congolais. Il faut avoir des relais en fait. Nous travaillons dans le réseautage, nous travaillons dans la mise en relation. Nous avons des Congolais qui se disent, est-ce qu'on peut avoir des partenaires au niveau de la diaspora? Et nous avons des Congolais qui se disent, est-ce que nous pouvons rencontrer les coopératives congolaises, la base pour pouvoir réaliser des choses? Et donc la passerelle des Congolais, vous sentez que c'est une passerelle.
Vous faites la médiation.
La médiation entre la RDC et les personnes qui sont à l'extérieur du pays. C'est l'une des solutions que nous proposons. Et puis, pour la question comment l'État peut aider...
Il y a une question par rapport à la corruption, les tracasseries qui découragent les investissements.
Les tracasseries, c'est un fait qui existe. Mais quand je parle de projet, dans un premier temps, moi je parle de micro-projet. Les micro-projets, c'est des projets qui commencent de 0 euro à 120 000... des euros dollars à 120 000 dollars maximum. Donc ça veut dire avec 1 000 dollars, avec 2 000 dollars. Et puis, nous connaissons notre pays, nous devons être assez intelligents pour éviter certains chemins. Nous avons des projets dimensionnés, nous avons des amis... Nous parlons de corruption, mais moi je penserais que le plus gros problème, c'est pas la corruption de l'État et la tracasserie de l'État. Nous avons aussi des corruptions humaines. Lorsque quelqu'un de l'Occident envoie 50 dollars à son partenaire de Kinshasa pour faire des démarches, pour avoir certaines informations, la personne dit, on m'a demandé 100 ici, 200 là-bas, et on lui donne 500, mais il ne fait pas le travail. Ça, c'est une corruption, morale, c'est pas l'État. Donc, nous avons besoin des hommes.
C'est pas sérieux.
Voilà. Nous avons besoin des hommes. Moi, je pense que le plus gros souci que nous avons, ce sont les personnes fiables à connecter. Quelqu'un qui est en Europe, qui veut mettre les moyens, c'est quelqu'un de bonne volonté et de bonne foi. Et d'engagé. Parce que dans ce milieu, il faut de l'engagement. Maintenant, lorsqu'il a un partenaire ici qui n'est pas fiable, ça va fatiguer.
Oui, bien sûr, il envoie l'argent, il bouffe, et puis le travail n'est pas réalisé.
Nous avons même des frères qui reçoivent l'argent pour acheter une parcelle et ils bouffent.
Ils bouffent et quand
ils envoient des photos des parcelles d'autres.
Et les jours où vous débarquez, c'est la déception.
Oui. Voilà, donc moi je pense que si au niveau des partenaires non institutionnels, des partenaires privés, nous avons des personnes intègres, nous aurons déjà des bonnes études de faisabilité, des bons conseils, des bons devis et des premiers envois pour lancer les projets.
Bien, avant de poursuivre, de répondre aux autres questions, on va accueillir Blaise Saïdi depuis Kisangani. Blaise, bonjour.
Bonjour, c'est jeudi, bonjour à l'invité.
Bonjour.
Auditeur, auditrice de la radio Capi, bonjour. Allô?
Oui, on vous écoute, monsieur Blaise, bonjour.
Oui, merci beaucoup, cher jeudi. La thématique, elle est très intéressante, vu que ce que vous avez déjà balancé dans la page Facebook, au niveau de la page Facebook, c'est très intéressant. Et toutefois, cher Jody, il y a toujours des interrogations qu'il faut nécessairement se poser. Est-ce que la diaspora congolaise, puisqu'ils sont éparpillés par-ci, par-là, en Europe, donc, est-ce qu'ils sont tellement bien recensés? Ils sont tellement bien recensés. Voilà. Je dois aller tout de suite à quelques préoccupations. La première préoccupation, quel obstacle empêche la diaspora d'investir davantage en République démocratique du Congo? Puisque vous verrez que ce que la diaspora est en train de faire, c'est plus c'est au niveau de leur famille. Ce n'est pas encore au niveau des institutions publiques. La deuxième préoccupation, comment renforcer la confiance entre la diaspora et les institutions publiques? C'est-à-dire, c'est ça la suite à la première préoccupation. Et pour citer, quels secteurs devraient être prioritaires pour les investissements de la diaspora? Est-ce que c'est la santé? C'est l'éducation? C'est l'agriculture? C'est les infrastructures? Ou encore sur le plan technologique? Je me limite à ce niveau-là pour laisser place aux d'autres intervenants, cher Jody.
Merci. Bien. Merci, M. Saïdi, depuis Kisangani. Quel est le rôle de la diaspora congolaise dans le développement du pays? 086-341-28-71. Appelez-nous à ce numéro pour intervenir dans l'émission. Monsieur Moulaba, il y a une autre question de Thomas de Kisangani. Il est revenu sur le manque de confiance entre comment établir la confiance, les relations de confiance entre la diaspora et les institutions du pays. Monsieur Blaise aussi est revenu là-dessus.
Je reviendrai sur le relais et la double culture parce que nous sommes dans une question d'humain en fait. La diaspora doit avoir des relais locaux ici en RDC, des personnes fiables avec lesquelles ils peuvent collaborer. Nous commençons par le lien de confiance. Je donne un exemple sur la culture française. Vous rencontrez quelqu'un sur le marché qui vous trouve intéressant, il vous dit juste bonjour. Vous restez dans les cafés, vous ne vous approchez jamais. Une deuxième fois, vous faites quelque chose. Quand il vous trouve sérieux, il vous invite chez lui. Et puis à la fin, il vous dira que quand j'ai senti que vous étiez congolais, je devais investir 1 million au Congo, mais je cherchais un congolais sérieux. Il a mis du temps pour étudier la personne.
Pour étudier, trouver la bonne personne.
Donc nous avons ce problème d'homme
intègre
quand on a la bonne personne, parce qu'il y a la méthodologie en France, il faut parler de la méthodologie. Nous avons quand on dit expert en gestion de projet, c'est pas pour le dire, c'est parce que nous savons comment lancer un projet, de l'étude, de ceci, de cela. Maintenant, quand nous avons des personnes intègres avec lesquelles nous pouvons collaborer, nous pouvons renforcer les capacités. On renforce les capacités par des formations, par des actions, des diapos ou des conférences en ligne. Après, nous donnons même des canevas. Quand je vous demande, quelqu'un qui est en France qui vous demande de faire une étude de faisabilité, il vous donne un tableau Excel avec des cases à cocher. Combien de personnes, si on veut faire un puits d'eau potable,
oui.
Combien d'habitants dans le village, combien d'hommes, combien de femmes, combien de jeunes, combien de ceci. L'eau, la plus proche, elle est à quel, ainsi de suite. Quand vous remplissez cela, ça nous permet de savoir quel genre de projet nous pouvons mettre sur place. Alors il faut des hommes pour donner ces informations-là. Pour échanger afin que le lien se crée.
Et des personnes engagées, pas personnes ceux qui engagées, viennent seulement pour
des opportunités.
L'argent, des opportunités.
Voilà.
Voilà. Une autre question, comment l'État peut impliquer davantage la diaspora dans le développement du pays?
L'État devrait créer des dispositifs permanents de mobilisation et d'appel à la diaspora. Je donne l'exemple du Sénégal. Il y a eu le gouvernement sénégalais qui s'est engagé à donner un fonds en partenariat avec l'Agence française de développement et l'Union européenne. Ils ont décroché plus de 11 millions et avec ça, ils ont imposé des partenariats entre les coopératives du Cameroun et les Camerounais acteurs de Solidarité Internationale de France de créer des projets ensemble avec un certain budget et ça permet de revenir en termes de financement et c'était un cofinancement avec des pourcentages. Donc c'est des dispositifs avec de l'argent ou des dispositifs d'accompagnement administratif et de facilité.
Accorder des facilités, des exonérations.
Voilà, des exonérations, c'est ça les accompagnements. Et je donne l'exemple du Maroc. Le roi du Maroc a dit que le Maroc ne dépend pas de l'étranger, ça veut dire que quand vous ramenez un financement d'un pays tiers, le Maroc donne le même montant pour qu'il soit aussi co-porteur du projet parce que c'est à sa charge le développement de son territoire. Donc $1 de l'étranger, $1 du Maroc. Et c'est là, lorsque les Marocains cherchent des financements, ils savent qu'on sera soutenu là-bas et on travaillera. Donc, il y a un soutien financier.
Il semble qu'il y a aussi un blocage au niveau de cette affaire de la nationalité congolaise exclusive.
Exclusive. Ah, voilà.
Les Congolais qui sont
avoir les visas. Voilà. On ne peut pas faire un projet de 3 ans parce que les visas, les cartes de résidence, les
sociétés. Parce que vous n'êtes plus considéré comme Congolais.
Voilà. Donc, il y a tout ça. Mais
ça freine
les investissements. Mais j'ai un petit témoignage quand même. J'ai cherché à entrer en contact avec le ministère de la Diaspora. J'ai été très bien accueilli et on m'a dit que c'était intéressant de discuter autour d'une table sur les dispositifs. Donc, des fois, nous avons des acteurs aussi dans le gouvernement qui veulent. Et il faut toujours des hommes pour proposer, pour mettre le nom sur une image. Et puis, demain, ça produit quelque chose.
Ouais. Il faut des Congolais de bonne qualité.
De bonne qualité. Voilà, des Congolais de bonne qualité.
Voilà. Bien, nous poursuivons. Comment établir des partenariats? Vous avez déjà répondu à cette question de Thomas. Alors, il dit comment faire pour faire retourner, par exemple, les professeurs d'université. Il y a eu à un moment, on parlait de la fuite des cerveaux. On a des Congolais, des professeurs, des experts qui sont partis et d'autres qui se sont formés ailleurs dans divers domaines. Comment les faire revenir pour développer le pays? On a besoin de toute cette intelligence.
Là, on parle de l'attractivité. Là, il y a l'État qui est engagé, peut-être en donnant des rôles à ces personnes qui sont des personnes ressources dans plusieurs secteurs d'activité, les rôles dans des conférences, dans des projets. Et puis, nous voyons beaucoup des personnes de la diaspora revenir en Afrique ou dans leur pays d'origine avec les ONG, avec PNUD, avec l'ONU. Avec
voilà, ils reviennent souvent
dans, ces institutions-là.
Oui.
S'il peut y avoir aussi un couloir ouvert par
le gouvernement,
par la FEC, par la société civile, pour faire revenir ces cerveaux. Nous avons des alumni, je parle de mes jeunes frères qui ont créé des alumni de France, et ils collaborent bien avec l'ambassade de France ici à Kinshasa. Ils ont à disposition des cerveaux, des masters, des licences, des ceci, des cela, des compétences. Et même sur la plateforme de la passerelle des Congolais, j'ai une rubrique où je cite les personnes ressources, padec.net, où on est en train de mettre à disposition aussi des personnes qui veulent les ressources nécessaires pour la réalisation de leurs projets.
Blaise Zaïd de Kisangani demande si est-ce que la diaspora congolaise est recensée. Est-ce qu'on sait au moins combien aujourd'hui des Congolais vivent à l'étranger, éparpillés à travers le monde?
Oui, ben ça partira de des pays. Moi, je sais que j'emploierai un autre mot. Je sais que la diaspora congolaise de France est structurée dans le milieu associatif. Il y a eu une plateforme, la PACOF, plateforme des associations congolaises de France, qui est membre du Forum, qui accompagne aussi les porteurs de projets congolais à avoir des financements. Nous, dans nos réseaux COSIM, FOSIM, nous avons toutes les diasporas. Moi, je les vois. Elles sont représentées, ces communautés congolaises de France et la Belgique aussi, qui a eu une grande histoire avec notre pays. On voit aussi, à l'époque, on disait les Belgicains. Aujourd'hui, nous avons nos amis de Belgique. J'essaie de voir. Au Canada, j'ai de l'expérience. Je ne dis pas, on ne peut pas. Je n'ai pas la facilité de dire sur toutes les communautés. Je reste sur la France. J'emploie le mot structuré. Les Congolais sont structurés en France. C'est une question de volonté et d'engagement et d'opportunité. Mais il y a beaucoup de déceptions quand même par rapport au pays.
Parce qu'on apprend aussi souvent que la diaspora, les Congolais sont très divisés, ils ne sont pas organisés, c'est toujours des querelles, des petits bobos à gauche, à droite par rapport aux autres communautés comme maliennes, sénégalaises, où il y a une forte cohésion, et ils vont ensemble demander des fonds et puis ils développent leur village.
Là, c'est le lobbying. C'est vrai que nous ne sommes pas très unis et forts dans le lobbying en Occident, comme même nos voisins qui nous agressent ou les autres, ils se structurent bien pour avoir leurs parrains et faire leurs actions. Ça, ça reste, c'est dommage, mais nous sommes quand même une population avec beaucoup de richesses humaines parce que nous nous retrouvons dans des sommets, des structures. Le Forum, c'est le sommet là-bas en France. J'avais trouvé un aîné, Jean Boutier, que je cite. Et puis moi aussi, je suis arrivé trésorier national. Et puis en Belgique, nous avons des avocats, des élus. Moi, j'ai été conseiller municipal dans ma commune, Fontaine-sur-Saône. Madame Colette Ilunga était ici, là-bas. Nous arrivons à nous retrouver, mais ça fait que nous ne sommes pas très structurés. Et ça, ça vient d'ici au Congo. Vous savez, nous ne sommes pas très unis dans ces culturels. Nous avons amené ça là-bas.
On doit combattre cela.
Combattons ensemble à Kinshasa, comme là-bas nous avons exporté ça vers l'extérieur. Voilà. Et on n'arrive pas à faire un lobbying pour le retour.
Soyons plus unis.
Plus unis, voilà.
L'union fait la force.
Voilà.
Bien, pasteur Bitaïsou Nestor nous a écrit depuis Bassoko quand il pose la question de savoir qu'est-ce que la diaspora envisage pour lutter contre les antivaleurs, corruption, détournement et autres au pays qui ne permettront pas aux investisseurs de venir investir. Bon, est-ce que c'est qu'est-ce que la diaspora peut faire par rapport à cela?
La diaspora,
peut-être un plaidoyer?
Le plaidoyer, oui. Ça sera bien un plaidoyer, mais moi je pense qu'individuellement, lorsque la diaspora revient en dehors des excès et des personnes vantardes, nous avons quand même des gens de la diaspora qui reviennent avec certaines manières, avec un peu d'humanisme. Quand ça emploie quelqu'un, ça cherche à donner un revenu décent, ainsi de suite, et on est traité des fois à diaspori, balimbala kisabiso. Donc c'est les manières qu'on est allé copier dans d'autres pays, qu'on essaie de ramener et d'inculquer. Mais lorsqu'on tombe sur des antivaleurs et qu'on est minoritaire, qu'est-ce qui arrive? On est broyé. Parce que dans les années 70-80, les valeurs étaient supérieures aux antivaleurs. C'est pour ça que Kin Label, l'éducation, ainsi de suite. Aujourd'hui, les antivaleurs commencent à prendre un peu le dessus et les personnes qui doivent véhiculer ces valeurs sont un peu minoritaires, mais il faut toujours se battre. Ben, je dirais à la diaspora de faire un plaidoyer, mais aussi avec beaucoup plus d'action et de l'exemplarité individuelle. Lorsque on disait à l'époque c'est parce que quand quelqu'un rencontrait un seul blanc dans la gestion, elle était fluide et prospère. Donc ça veut dire que la diaspora aussi, chacun individuellement, dans ce que nous faisons lorsque nous venons au pays, si nous véhiculons une certaine image, on nous prendra pour des gens capables de lutter contre les antivaleurs. Mais si vous venez de l'étranger, mais vous vous comportez comme si vous n'avez jamais séjourné dans un pays où la civilisation elle est un peu plus poussée, vulgarisée, il y a tout ça aussi comme problème.
Bien, nous parlons du rôle de la diaspora congolaise dans le développement du pays. 086-341-2871. Appelez-nous au 086-341-2871 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Blaise Saïd, il veut savoir quels sont les secteurs prioritaires lorsque les Congolais de la diaspora veulent investir au pays. Quels sont les secteurs qui sont prioritaires? C'est la santé, l'éducation et c'est l'agriculture ou les infrastructures?
Moi, je pense pertinemment que c'est le renforcement des capacités et la sensibilisation de l'humain à s'engager. Parce que quand on dit expert en gestion de projet, un projet reste un projet. Tous les projets sont structurés de la même manière. Nous avons juste le secteur d'activité qui diffère dans le contenu. Donc nous devons avoir des acteurs. Donc la priorité, c'est de sensibiliser, de trouver les acteurs, de renforcer leurs capacités. Ensuite, en étant engagés, nous allons toucher à tous les secteurs et à tous les domaines. Prioriser comme ça au cours d'une émission les secteurs d'activité, je pense que c'est très
difficile
et c'est peut-être aller un peu n'importe comment. Recenser l'humain, renforcer ses capacités et l'aider à s'engager, et chacun aura son domaine de prédilection pour aller développer tous ces secteurs. Tous ces secteurs sont importants, mais les hommes pour pousser derrière, c'est ceux dont on a besoin.
Mais qu'est-ce qui vous avait motivé à aller, par exemple, installer un forage à Bakwaboa, tout ça? C'était à partir de quoi? Vous avez fait une étude
Très bonne question.
Voilà.
L'association s'appelait Action pour la promotion agro-pastorale du Kasaï. Pourquoi? Parce que nous avions 400 hectares à Makassa, entre Mweneditu et Luputa, sur la route de Bondo, et il y a le village de Makassa. Donc nous avions des terres, nous avons des accords avec les chefs coutumiers, les paysans, les gens qui devaient travailler. Et nous sommes allés chercher les fonds pour l'agriculture et l'élevage. Mais il s'avérait que dans les années 2006-2005, avec les objectifs du millénaire, aujourd'hui nous avons les objectifs du développement durable,
les ODD,
c'était les objectifs du millénaire à l'époque, et puis l'eau était faisait partie des objectifs prioritaires de ces années-là. On disait l'année de l'eau. Il y a eu beaucoup de fonds
qui étaient
alloués dans l'eau. Et nous n'avons pas eu accès à des financements sur l'agriculture, mais vu qu'on avait le développement local de notre territoire, et puis ensuite, quand on part dans les objectifs spécifiques agriculture, élevage, ainsi de suite, on dit, mais pour développer un territoire, il faut de l'eau aussi. On va vers le bailleur. Donc là, c'était les financements qui étaient disponibles, les lignes des financements.
Et il y avait un besoin, vous avez...
Il y avait un besoin aussi.
Un besoin, là,
voilà.
Donc, c'est un point où il n'y a presque pas de...
Non, en fait, on a toujours de l'eau quelque part, mais c'est de l'eau de la rivière. Et lorsque le village descend, on lave les habits, on se lave, il y en a qui font des besoins, et on puise l'eau pour la maison sur place.
Au village Makassa.
Et lorsqu'on voit ça, on voit directement les maladies. Les maladies d'origine hydrique, et ainsi de suite. Et on se dit que si on a un puits ou un forage, au moins déjà l'eau pour boire et pour cuisiner, c'est déjà de la bonne eau. Et puis, il y a des besoins partout, même à Kinshasa, nous avons des forages.
Bien sûr.
De partout. Et s'il faut parler des villages du Kassai oriental, c'est encore pire.
Bien, on va accueillir un autre auditeur dans cette émission de la vie au quotidien. Vous avez des questions et préoccupations, composez les 086-341-28-71. Bien, Joseph Kayembe, depuis Kananga, pose une question. Quelle est l'importance de la diaspora congolaise? Voilà, il se limite là.
L'importance, c'est l'autre regard. Parce que nous sommes tous nés à Kinshasa, à Kananga, à Mbujimayi, avec nos
visions, à l'équateur,
Bandundu, Congo central, Katanga, Kivu.
Voilà. Le Congo est grand.
Hein. Voilà. Maintenant, nous avons les Baluba, ne se regardent que dans ceux qui connaissent, les Bakongo. Kinshasa, c'est très cosmopolite. On a fondé la quinoiserie, le Congo. Donc, l'importance de la diaspora, c'est partir ailleurs, voir ce qui se passe et revenir. Je dédicacerai mes compatriotes de Londres lorsque ils ont eu l'idée d'investir sur des appartements. Ils appellent ça flat. Flat hotel, c'est la culture anglaise, anglo-saxonne de l'Angleterre, et ils ont ramené à Kinshasa et ils ont appelé ça flat. Les Congolais qui parlent lingala disent flat aujourd'hui. Donc l'importance de la diaspora, c'est d'apporter quelque chose d'ailleurs.
C'est pas d'envoyer tout le temps des véhicules usagés.
Non, c'est l'autre regard sur l'investissement. Nous avons des... Lorsque nous allons dans des restaurants à Kinshasa, même dans des quartiers populaires, vous verrez, on dit Oezé à moi na poto. Salon de coiffure, salon Franck, qui était en Belgique, qui a créé à Kinshasa. Excusez-moi de citer les entreprises, je ne sais pas si je fais de la publicité. Je ne les citerai plus.
Voilà.
Donc, ces gens-là, quand ils viennent, on dit Et à moi na poto, ça veut dire que dans le pays où ils vivent, c'est comme ça que les choses se
passent. Même par la qualité de service.
Par la qualité de service. Et quand il ramène dans son pays, il ramène toutes ces qualités-là et ça se distingue. Donc l'importance de la diaspora ou des Congolais qui vont en visite en Europe, c'est de voir ce qui s'y passe, de bien et de ramener
au pays. Copier et de venir
de ramener au pays.
Voilà. Bien, nous parlons du rôle de la diaspora congolaise dans le développement. Alors quelqu'un a posé la question de savoir quels sont les obstacles qui vous empêchent de ne pas trop investir dans vos pays d'origine. Au lieu d'envoyer tout le temps de l'argent seulement aux familles pour les besoins des ménages, pourquoi ne pas penser à investissement, création des entreprises, etc.
Pour ceux qui veulent investir avec des budgets importants, c'est la sécurité. Donc vous ne savez pas ce que vous investissez. On vous dit que c'est à moyen terme que vous allez gagner 8 ans, 10 ans. Mais vous ne savez pas si ça fera les 10 ans. Peut-être qu'on vous a reçu maintenant, ça se passe bien. Demain, après, il y a un changement. Vous ne savez pas si ça va continuer. Donc, c'est la peur et le doute du lendemain. À côté de ça, il y a les tracasseries aussi. Je me rappelle la première fois qu'on devait ramener un conteneur de matériel médical. On est allé demander quelque part. On pensait nous dire que vous serez exonéré ou bien vous faites ça. On nous dit pour les produits, ceci, vous payez tant pour les... Donc, c'est des dons, on paye pour les dons.
et on avait changé.
Au niveau de la douane.
Oui. Au niveau des services.
Des services.
Voilà. Donc, pour amener ça, il faut payer.
Il faut payer. Et ça, ça décourage.
Et ça, ça décourage. À côté de cela, nous avons aussi les humains, les individus qui reçoivent cette diaspora quand la diaspora investit. On a toujours des problèmes. À Kinshasa, personne ne dit « je ne sais pas ». Est-ce que tu sais me prendre une autorisation ? Oui, je sais. Il te faut 300 dollars. 300 dollars avant, il arrive sur place, il ne connaît pas, il n'arrive à rien faire. Et du coup, on se dit, ah, c'est pas un pays sérieux, faut pas.
Et il a bouffé l'argent, et puis il y a.
Voilà. Donc, c'est des individus qui donnent l'image au pays, parce que au pays, c'est la population qui habite. Et lorsque quelqu'un a trois coups, trois, c'est beaucoup,
c'est significatif.
Trois fois avec une commune, une fois avec un ministre, et une autre fois avec un cousin. En tout cas, ça ne sert plus à rien d'aller là-bas. Mmh. C'est ça les obstacles, en fait.
Donc, il faut améliorer le climat des affaires.
Le climat des affaires au niveau macro, et puis le comportement au niveau à la base, le comportement.
Le climat des affaires, c'est assez important. Il semble que déjà, à partir de l'aéroport d'Engie,
on a déjà une certaine image
qui ne rassure pas.
Et en parlant de l'aéroport d'Engie, là, nous allons quand même remercier une action qui a été faite par le chef de l'État dès son accession au pouvoir. Les Congolais naturalisés, rien que par leur nom ou par la mention « né à Kinshasa », ils peuvent partir des pays occidentaux pour venir prendre le visa à l'aéroport. C'est un levier qui a débloqué beaucoup de situations.
Une avancée significative.
Une avancée très significative parce qu'il y en a qui, à partir de lundi, on lui demandait d'être à Kinshasa jeudi. Et il faut aller à l'ambassade. Quand l'ambassade est à Paris, vous êtes à Marseille, vous envoyez votre passeport, il faut 2 semaines. Mais lorsque vous pouvez vous embarquer directement dans un avion pour venir prendre votre visa ici à l'aéroport, je pense que ça, ce sont des genres d'actions que l'État devrait faire pour soutenir, encourager et motiver la diaspora.
Voilà. Quel est le rôle de la diaspora congolaise dans le développement du pays? On en parle avec Monsieur Alain Moulaba Chilumba, expert en gestion des projets, entrepreneur et coordonnateur du PADEC, qui est la passerelle de Congolais. Alors, combien de Congolais de l'étranger vous avez déjà assisté grâce à votre structure, la passerelle? Est-ce qu'ils vous contactent souvent quand ils ont des projets, ils ont des besoins, ils passent par vous pour, pour venir investir au pays?
Nous avons plusieurs Congolais qui nous ont intéressés dans le domaine de l'immobilier, l'accès au terrain dans les périphéries de Kinshasa, c'est les Mboudi ici, là-bas, et pour les démarches dans les titres fonciers, parce que nous faisons aussi des démarches administratives. Donc quelqu'un de l'extérieur peut nous faire une procuration, on crée pour lui une association.
Faites de la facilitation.
La facilitation. On peut créer une entreprise, on peut rechercher une information, trouver un devis, trouver un prestataire, ainsi de suite. Et nous avons même eu des Algériens qui voulaient venir investir. On a aidé pour la DGM, pour un visa volant. Donc, on a fait des démarches pour la personne, et la personne a payé en ligne, est venue à Kinshasa, on l'a accueilli, on lui a montré l'hôtel où dormir, et puis un peu, on l'a orienté au guichet unique parce qu'il devait faire une agence pour recevoir des colis venant de la Chine, quelque chose comme ça. Donc, nous sommes vraiment des facilitateurs, démarches administratives, et puis nous avons des experts qui peuvent faire des études de faisabilité dans des projets et des remises en relation. Nous sommes en train de travailler sur un incubateur en partenariat avec le campus The Land et aussi à Kinshasa. Nous prenons des contacts, notamment à Mbandaka. Lors d'un dernier séjour, nous avons aimé l'université de Mbandaka. Nous pensons qu'il y aura des belles choses à faire avec la jeunesse. Ça sera le projet pilote, parce que j'ai étudié à Mbandaka tout jeune. C'est là même que j'ai eu mes inspirations, parce que mes parents avaient des plantations à Kanlamba, à Bongondé, à 50 km de Mbandaka, et ça m'a inspiré. Aujourd'hui, la PAPCA a des hectares de terre à Makassa, au Kassai, c'est de là que toutes les actions ont commencé pour faire des projets.
Maintenant, donc, vous voulez partir du Kassai pour Mbandaka dans la province de l'Équateur.
Oui, c'est ça le Congo qui est grand. Je garde cet amour pour cette ville de Mbandaka, et je pense qu'avec les jeunes de là-bas, nous aurons un projet pilote qui montreront aussi l'expérience de la diaspora avec la jeunesse dans le sujet.
C'est dans le domaine de l'éducation,
l'entrepreneuriat. C'est pour ça que nous allons mettre l'incubateur en place pour renforcer les capacités de ces jeunes, les former à un business plan, à l'étude de faisabilité, et puis à comment mettre en place leur business, et puis rechercher des financements.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement, il y a le programme présidentiel des Bouches Jeunes Congolais,
oui, oui.
Qui a trois axes. Nous avons la formation professionnelle, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes.
Voilà, donc c'est des actions encouragées et où ça peut s'ouvrir aussi à des partenariats avec les actions de la diaspora. C'est toujours pas mal d'avoir des connexions et du réseau.
Donc les jeunes de Mbandaka se préparent
voilà.
à recevoir un incubateur d'entreprise.
D'entreprise, voilà.
D'accord. 086 341 28 71. Nous parlons du rôle de la diaspora congolaise dans le développement du pays. Monsieur Alain parle aussi lingala. On peut faire passer un message en lingala.
Oui, oui.
Les Kualin Toyambi Olelo na émission Capi Service. Vous êtes expert dans ma Kambotaliba projet, vous êtes entrepreneur, puis vous êtes la structure na Obenga au Padel, passerelle des Congolais, au vivre Mikolebele na France, aux Zongia na Congo. Si vous avez des gens qui sont dans la diaspora en France, vous avez besoin d'investir dans la famille, vous avez besoin de la famille, vous avez besoin de papa, vous avez besoin de problèmes. Mais vous avez besoin d'investir pour le développement de la famille.
En tout cas, bandeko bazape déjà ebele bayaka, mais na rosenga na bango bazala na bandeko yo baza sur place na mboka bayebi mo makambu ba tuti sa ba mayele pour faciliter bango biso passerelle des Congolais tozo sa la Lyon na pona bandeko yo baza na ba base te na Congo tokoy ko faciliter ba rencontre ta tozo keneti na mbandara ko kuta na ba jeune ba ko l'accession ba secteur d'activité ba ko a besoin. En tout cas, motivez-vous mais na yebi que na zolo bana bandeko des soba se motiver. Mais NASA témoin que Baza motivé. L'Europe est changée. Hein? L'Europe est changée. Et comme il y a tout ce qui est Bouta, Boye, Limite, Nango, Baloua, Nango, Eza, Corsé, Batebele, Mouté, Manabango, comme il y a un peu de temps, il y a un
peu de temps.
Voilà. Si vous avez un moment où vous avez besoin de ma bête, ce que vous avez besoin, même l'économie, il y a un bébé sangwa et Bungi. Donc il faut besoin de bien, na maele a bien, na ba projet, et puis Mboka Pé, Lélo. On dirait l'acquisipé bah secteur d'activité belé bah te belé bah surtout avec le digital vente en ligne, achat à l'international, livraison à domicile, mbokapé comme ina makambu nango boya beaucoup ta dynamique wana bo apporter maïe le botany na poto et puis boya tout ça là tout tombe la mboka elongo.
D'accord. Donc, comment investir dans le secteur ébélé?
Oui.
La bilanga, tout ça.
Le transport, la livraison. Na ba industrie. Tobo, c'est une industrie. T'es la première richesse. C'est ça, bah, usine. To fabriquer, biloko. Pour biso, tous amis, il y a immobilier. Achet deux étages, naé. Achet une
baloué, naé.
Plat, naé. T'es, t'es quoi, t'appelles une industrie? T'es, t'y a quoi importer? Bah, stylo, bah, papier hygiénique. Bah, blogo. Et bah, usine, bah, $10,000, ezali. Bah, $5,000, ezali. T'es investir dans Katinango. Pour na, y a bah, cadeau, bah, jouer. Pour na, bana tout ça
secteur les aibé
bah secteur les aibé
mais il faut décourager bango au moins investir dans mboka na yo mais ba tracasserie déjà visa passé au comme boye tracasserie à gauche à droite ngana relia combien pourcentage ngana combien ezo lembisa bango.
En tout cas, tracasserie, on a photo lutter dans le bisonnion. Bisopé passerelle des Congolais, quelque part, tout ça va servir mon sérieux et fiable, tout ça tenir compte de ma culture, nion ça, tout aider qu'on l'a qui ça, les cas plutôt, ah ouais, les cas plutôt, les akouéba. Et là, on y a des joueurs en gros. Donc, Baya, tout ça, Namboka, passerelle des Congolais, www.padec.net, bon, contactez Bisot, tout ça pour un service, Nabino, tout le monde.
Bon, vous avez un numéro, il y a téléphone auto.
089 81 84-848.
Ok, pouvez-vous reprendre le numéro?
089-81-84-848. Pour un bateau étranger, 00-243-89-81-84-848.
Voilà, voilà, et c'est le numéro par lequel on peut vous joindre.
Voilà.
Pour, alors, où est-ce que vous avez, à part le projet, l'entrepreneuriat des jeunes en Mbandaka, vous voulez placer un incubateur là-bas? D'ailleurs, aujourd'hui, on parle même il y a le concept étudiant-entrepreneur.
Oui.
On peut commencer à entreprendre tout en étant étudiant.
Voilà, ça permet demain de grandir et s'il faut changer de direction, de le faire en étant jeune au lieu de... Voilà, donc Tozan a un projet P, il y a Campus de Land, il y a Rennes, aux partenaires Nabisso, a commis qu'on inscrire Bana directement à partir de Kinshasa, Bakenderotanga, à Rennes, tout ça via Kaka, Jeune Chambre du Commerce Congo Diaspora, na Internet, beaucoup tombé qu'à la plateforme, sur padec.net, donc toutes les informations na padec.net.
Bien, Monsieur Alain Moulaba Chilumba, expert en gestion des projets, entrepreneur et coordonnateur de PADEC, la passerelle des Congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation et excellente journée.
C'est moi qui vous remercie.
Bien, vous écoutez la radio Okapi, le magazine Okapi Service se poursuit. Après ce thème sur le rôle de la diaspora dans les développements du pays, nous allons passer à autre chose. On va parler de la gestion de l'insalubrité, l'éducation environnementale dans la deuxième partie de cette émission.